Bonjour à tous. France ou Kanaky, résultat encore partiel, mais selon le Haut Commissariat en Nouvelle-Calédonie, le non à l'indépendance l'emporte de peu. Le non recueille 53% des voix contre 47% aux indépendantistes. Participation en hausse. Les Calédoniens restent partagés sur l'indépendance. Nous irons en Nouvelle-Calédonie. Invité de ce journal, René Dosière, ancien rapporteur sur la mission d'information sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Près de 48 heures après le passage de la tempête Alex et les crues hors normes dans l'arrière-pays niçois. Priorité au secours et à la recherche des disparus. Reportage dans ce journal à Roquebilière, durement frappé par les inondations. Les combats se poursuivent au Nagorno-Karabakh. Le conflit prend une tournure de plus en plus inquiétante. Nous irons à Stepanakert bombardée, principale ville de la région séparatiste. Donald Trump va mieux, mais il faut encore attendre quelques jours. Le président américain n'est pas encore tiré d'affaire, selon son médecin. Dans ce journal également, une manifestation ce matin à Béthune contre la fermeture de l'usine Bridgestone et du tennis à Roland-Garros, une Française, Caroline Garcia, et un Français, Hugo Gaston, sur le central aujourd'hui, et défaite ce matin de la favorite Simona Halep. La météo toujours perturbée, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques restent en vigilance orange. Jean-Michel Golinski à la fin de ce journal.
France Inter.
Même question qu'il y a 2 ans, voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? Pour l'instant, on attend la réponse en définitive, mais le non l'emporte, mais se réduit selon des résultats partiels. Le non à l'indépendance arrive donc en tête après dépouillement de 108 000 suffrages exprimés sur un corps électoral de 180 000 inscrits. Le vote loyaliste, je vous le rappelle, recueille 53% des voix contre 47% pour le vote indépendantiste, selon les chiffres du ministère des Outre-mer. Alors à noter également une participation beaucoup plus forte qu'il y a 2 ans, lors du premier référendum, avec à une heure de la fermeture des bureaux 79,63% de votants, soit une progression de 6 points lors du scrutin d'aujourd'hui. Thierry Belmont, de Nouvelle-Calédonie, la première, était ce matin dans les bureaux de vote auprès des électeurs. On écoute la réaction de cette électrice sur le taux de participation.
Je constate qu'il y a beaucoup de jeunes que je connais qui sont venus pour voter pour ce référendum-là. Mais je trouve que cette année-là, il y a plus eu de mobilisation pour les partis politiques. Je trouve que cette année, les gens ils se sont bien mobilisés. Ils se sont rendus compte de l'importance qu'il y a pour cette année par rapport à 2018.
Par rapport participation en hausse, donc, et les premiers résultats qui nous parviennent des bureaux de vote, en tout cas certains bureaux montrent dans le même temps une progression du oui à l'indépendance, mais c'est pour autant que le camp indépendantiste l'emporte. Lors du premier référendum, le oui avait recueilli un peu plus de 43% des suffrages. À Lifou, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Loyauté, on retrouve Sarah Maquet. Sarah, le non l'emporte, mais la participation semble avoir renforcé les indépendantistes.
Oui, effectivement, la grande question ici ce soir était de savoir vers quel camp allaient se diriger les 33 000 électeurs qui n'avaient pas donc voté en 2018. Il y a eu un énorme travail des deux camps depuis le dernier référendum, une grande mobilisation pour convaincre ces abstentionnistes. Là où pour l'instant on note une plus forte mobilisation, c'est en province des îles qui n'avaient pas voté à près de 40%. La province des îles qui est majoritairement indépendantiste, mais il nous manque en fait ce soir les communes les plus importantes en termes de nombre d'électeurs, c'est-à-dire les communes qui forment le Grand Nouméa et qui sont des communes normalement non indépendantistes. Ce qu'on peut noter, c'est que la campagne a été plus tendue qu'il y a 2 ans. Les deux camps se sont écharpés sur plusieurs points, ont rompu le dialogue et on attend de voir en fait l'écart effectivement pour voir si le dialogue va pouvoir se renouer ou si au contraire les deux camps vont de moins en moins pouvoir converser. En tout cas ici en province des îles, beaucoup de jeunes dans la rue, une très forte mobilisation et effectivement une mobilisation en hausse.
Sarah Maquet à Lifou, invité de ce journal, René Dosière, ancien rapporteur de la mission d'information sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Bonjour René Dosière.
Oui, bonjour.
Alors, on découvre ensemble et en direct les résultats de ce référendum. Donc, sur, je les rappelle, sur les des sur 70% des bulletins dépouillés, donc des résultats partiels, c'est le non qui l'emporte, le non à l'indépendance qui l'emporte avec 53,3% des voix contre un peu moins de 47 pour le oui à l'indépendance pour le camp indépendantiste. Donc René Dosière, il n'y a pas eu de sondage, mais c'est un score pour le non qui était attendu.
Oui, si vous voulez, ce qui est nouveau dans cette deuxième consultation, c'est la mobilisation qui a été très forte avec une participation de 86% qui est exceptionnelle. Et cette mobilisation, il est manifeste qu'elle est beaucoup plus forte chez les indépendantistes. Ça se voit dans les îles. Là, votre correspondante le signalait. La participation a gagné 14 points. Là, c'est beaucoup. Et ça se voit dans les territoires où les Kanaks sont majoritaires, où là, la participation et le vote en faveur du oui gagnent 2 à 3 points. Ça se voit également, d'ailleurs, dans le Grand Nouméa, où apparemment, là, les jeunes Kanaks qui sont un peu installés dans ces communes, eh bien, eux aussi ont manifesté leur volonté de l'indépendance. Donc, je pense que le résultat définitif risque d'être de 55 à 45, compte tenu de ce qu'on attend, les résultats de Nouméa. Mais cela signifie qu'il y a quand même une légère progression des indépendantistes. Elle ne change pas, en tout état de cause, la réalité qui est que les indépendantistes sont pour l'indépendance, et les Européens, les anti-indépendantistes, sont contre. Et ça, ce clivage, si vous voulez, ne bouge pas depuis près de 40 ans. Alors, et il faut quand même qu'on en sorte. Parce que c'est ça l'avenir de la Calédonie, c'est que les gens décident de vivre en commun et ensemble.
Alors, René Dosière, le non, il y a 2 ans, l'emportait avec 56% des voix. Cette fois-ci, aujourd'hui, il devrait l'emporter entre 53 et 55% des voix. Pour les pro-français, ça reste un demi-échec, comme il y a 2 ans?
Non, c'est simplement, je pense que la signification profonde n'est pas dans la progression, je dirais, du oui, même si elle est encourageante pour les indépendantistes. Ça veut dire en particulier qu'ils ont réussi à mobiliser davantage les gens. Il n'y a pas véritablement, semble-t-il, de transfert quand on est indépendantiste, si vous voulez, en pays kanak, on vote pour le oui, mais on vote pas pour le non. Et quand on est européen, on vote pour le non et on vote pas pour le oui. Les transferts d'une communauté à une autre sont vraiment très marginaux. Il faut simplement, ça c'est une réalité, il faut simplement que ces deux communautés décident, si vous voulez, comme depuis 30 ans on essaie de le faire, décident de vivre ensemble un destin commun. Et pour cela, il faut qu'elles dialoguent et qu'elles construisent un projet d'avenir et non pas qu'elles s'affrontent dans des référendums où il y a le oui et le non, sans d'ailleurs toujours bien savoir ce que recouvre ce oui et ce non.
Là, on est dans le jour d'après avec le dialogue, mais dans le surlendemain, c'est-à-dire dans 2 ans, un troisième référendum est possible, en tout cas il est envisagé. Vous déclariez, vous, René Dosière, récemment, que la Nouvelle-Calédonie, il n'est plus possible que de dire que la Nouvelle-Calédonie, c'est la France.
Oui, alors je dis ça tout simplement parce que les transferts de compétences qui ont été faits font que la législation, par exemple dans le droit civil en Calédonie, la fiscalité n'est absolument pas la même qu'en France parce que le Congrès de la Calédonie a un pouvoir législatif qui est égal à celui qu'a l'Assemblée nationale. Simplement, l'Assemblée nationale ne peut plus voter les dispositions pour la Calédonie. C'est au Congrès calédonien de le faire. Donc, on est toujours, bien entendu, on est dans l'ensemble français. La Calédonie fait partie de l'ensemble français, mais la législation calédonienne est de plus en plus différente de la législation française. C'est en sens-là que je disais, si vous voulez, ça n'est plus la Calédonie, ça n'est plus tout à fait la France, comme par analogie avec ce que dans le passé, certains pouvaient dire l'Algérie, c'est la France. Mais là, la législation est différente, car la Calédonie dispose aujourd'hui d'une souveraineté interne, pas une souveraineté externe, c'était l'enjeu du référendum, et donc tout ce qui se passe, toute la vie économique de la Calédonie se décide à Nouméa par l'Assemblée législative calédonienne. Et c'est ça qui est, je dirais, important. Et il faut naturellement en tirer toutes les conséquences.
Merci.
Et donc, progresser, construire un après Nouméa.
Merci René Dosière, ancien rapporteur de la mission d'information sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. J'ajoute que Emmanuel Macron doit s'exprimer dans les minutes qui viennent. Le président de la République, tenu à l'impartialité, doit attendre les résultats du référendum à l'issue du premier scrutin en 2018, du premier référendum. Emmanuel Macron avait souligné que la France serait moins belle sans la Nouvelle-Calédonie.
France Inter, le journal de 13h, Frédéric Barrère.
Près de 48 heures après le chaos de la tempête Alex, la priorité reste le secours aux sinistrés et la recherche des personnes disparues ou dont on est sans nouvelles. Les habitants des vallées ravagées par les inondations sont encore aujourd'hui groggy et c'est le cas notamment dans la Vésubie. Le niveau de l'eau a baissé mais des villages sont encore coupés du monde, sans eau potable ni électricité. Les routes défoncées ou disparues sous les flots sont bien sûr impraticables et des dizaines de sinistrés ne peuvent pas rentrer chez eux. Reportage à Roquebillière, Thibault Lefebvre.
La maison est toujours debout, mais elle baigne désormais dans la Vésubie.
Ça, c'est ce qu'on voit en bas de la maison, en fait, regardez. On voit la rivière, qui était à 200 mètres de nous, qui se retrouve au pied de la maison. On a envie, on n'est pas mort, c'est bien.
Fataliste, Mounir est rentré pour la première fois chez lui depuis la soudaine montée des eaux, vendredi après-midi.
On est trois familles dans la même maison. On est monté en catastrophe dans les voitures, on est parti, on a vu la vague taper. On a craint que ça fasse tout tomber. Bon, Dieu merci, la maison est encore debout. Les routes, en fait, elles sont tombées des deux côtés de la maison. On essaie de bien coller au mur vu que la route elle est effondrée et puis on récupère ce qu'on peut. On a privilégié passeport, un petit peu d'argent qu'on avait à la maison, et les fiches de paye, tous les papiers difficiles, toute une vie quoi.
Toute la famille est désormais hébergée dans une grande salle du collège de Roquebillière.
Merci.
Et c'est la directrice de l'établissement qui accompagne depuis vendredi Inès, l'épouse de Mounir, et tous les autres sinistrés.
On nous a amené les chaussures de chez elle, les chaussures, les chaussettes, les oreillers et tout. T'as l'eau dans tes pieds, tu peux rien prendre.
Un peu plus d'une dizaine de personnes dormaient encore hier soir dans le collège de Roquebillière. Ils étaient trois fois plus vendredi. La plupart sont aujourd'hui hébergés chez des proches.
Et dans les vallées de l'arrière-pays niçois, les secours sont toujours mobilisés avec l'armée et ses hélicoptères aux côtés des 1000 pompiers et des gendarmes sur le terrain qui intensifient leurs efforts concernant les recherches à la mi-journée. Il y a officiellement 8 personnes portées disparues. À l'étranger, les combats se poursuivent au Nagorno-Karabakh. Stepanakert, la capitale de cette région indépendantiste, a été visée par des tirs de roquettes. Par ailleurs, la deuxième ville d'Azerbaïdjan, Ganji, est également sous le feu des forces arméniennes. Le conflit meurtrier prend une tournure de plus en plus inquiétante. À Stepanakert, on rejoint Claude Brouillot.
Pour tout le monde ici maintenant, côté arménien, les choses sont claires. L'intensification des bombardements sur la capitale du Haut-Karabakh depuis ce matin correspond en fait à la riposte azerbaïdjanaise aux frappes arméniennes sur Ganji, la deuxième ville d'Azerbaïdjan, dont la base militaire aurait été détruite. C'est en fait un cercle infernal qui se poursuit. Au début de cette deuxième semaine de conflit, la confrontation gagne donc en ampleur. Après avoir ciblé les populations civiles qui continuent à quitter l'enclave, les forces azéries s'attaquent maintenant à des objectifs stratégiques. On a pu voir par exemple ce matin d'épais nuages de fumée noire en plusieurs endroits de Stepanakert. Sont cités comme cibles effectivement potentielles les dépôts de carburant et autres centrales électriques. Les habitants qui restent se protègent dans les caves ou gagnent les hôtels en espérant pour certains trouver un moyen de locomotion afin de fuir de l'autre côté du corridor de Latchin qui mène en Arménie. Stepanakert, Claude Brouillot, France Inter.
Et puis dans une tribune publiée ce matin dans le journal du dimanche, 173 maires, députés ou sénateurs français, dont Anne Hidalgo et Laurent Wauquiez, appellent la France à sortir de sa neutralité dans le conflit au Nagorno-Karabakh. Il s'agit, disent les élus, d'une agression de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie, une attaque insupportable contre un pays, l'Arménie, ami de la France. Donald Trump va beaucoup mieux, mais les prochains jours expliquent lui-même, le président américain représente le vrai test. Même prudence de la part de son médecin, Sean Conley. Donald Trump n'est pas encore tiré d'affaire, mais dit-il, son état de santé continue à bien évoluer. Donald Trump a donc passé une deuxième nuit à l'hôpital après avoir été testé au positif au coronavirus et il n'est pas le seul. À la Maison Blanche, dans l'entourage proche du président, plusieurs personnalités ont également été testées positives au coronavirus à tel point qu'on se demande si un événement événement organisé samedi il y a 8 jours à la Maison Blanche n'a pas servi de cluster, foyer de propagation du virus. Washington, Grégory Phillips.
Dans la roseraie de la Maison Blanche, samedi 26 septembre, 150 invités assistent à la nomination de la juge Amy Coney Barrett, qui doit remplacer Ruth Bader Ginsburg à la Cour suprême.
Judge Amy Coney Barrett.
Les invités sont assis dans le jardin, les uns près des autres, très peu de masques. À la fin de la cérémonie, certains se serrent la main, se congratulent. Il y aura même après une collation offerte à l'intérieur de la Maison Blanche, dans la Diplomatic Room. Sur ces 150 invités, 9 ont été testés positifs au coronavirus. Donald Trump, bien sûr, son épouse Melania, mais aussi l'ex-conseillère Kellyanne Conway, 2 sénateurs et l'ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, qui dans les jours qui suivent aidera le président à préparer son débat face à Joe Biden. Impossible de savoir si c'est ce jour-là que Trump a contracté le virus, mais des médecins interrogés par les médias américains parlent de cet événement comme d'un super cluster, d'un foyer de contamination. Amy Coney Barrett, elle, a été testée négative, mais avec 3 sénateurs républicains malades, la nomination de la magistrate risque d'être retardée, peut-être après la présidentielle. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Et on retourne en France avec une manifestation ce matin à Béthune contre la fermeture de l'usine Bridgestone. Plusieurs centaines de salariés de l'usine avec leurs familles ont participé à une marche silencieuse dans l'espoir de voir le géant japonais revenir sur sa décision de fermer son usine de pneus. Sur place à Béthune, on retrouve Florent Vautier. Bonjour Florent.
Bonjour.
Une manifestation avec un moral au plus bas.
Oui, derrière les masques de rigueur, évidemment, ce matin, on pouvait deviner les mines fermées, des salariés de Bridgestone et des habitants de Béthune venus les soutenir en nombre. Mais pas de colère, pas de cris, pas de slogan scandé, parce que le mot d'ordre, c'était de défiler dans le calme, simplement une banderole en tête de cortège, non à la fermeture de Bridgestone, soutien aux salariés, avec quand même des applaudissements lorsque le cortège est passé devant les grilles de l'usine Bridgestone. Mais pour autant, ce matin, à Béthune, eh bien, personne ne voulait baisser les bras. On a entendu les mots de combat, les mots de lutte, y compris dans la bouche du président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand. Il était là ce matin, aux côtés d'autres élus comme le maire de Béthune. Xavier Bertrand veut tordre le bras aux dirigeants japonais de Bridgestone et il s'est même dit prêt à aller sur place avec le gouvernement pour tordre le bras aux japonais. Les négociations sur le PS doivent démarrer la semaine prochaine et ici, à Béthune, tout le monde veut faire en sorte que l'emploi soit maintenu parce que sinon c'est plus qu'une usine et c'est 863 emplois qui seraient touchés, mais tout un territoire.
Laurent Vautier de France Bleu Nord, merci. La jeunesse crée la sensation au tournoi de tennis de Roland-Garros. Fiona Ferrero hier soir, mais aussi Hugo Gaston. Et peut-être encore Caroline Garcia qui a 26 ans, même si elle est déjà plus ancienne sur le circuit. Tous 3 vont disputer les 8e de finale du tournoi. Garcia et Gaston aujourd'hui sur le central. Et à noter ce matin, la défaite de la favorite Simona Halep, numéro 2 mondial et tête de série numéro 1. Elle a été battue par une toute jeune, la jeune Iga Swiatek. En 2-7, 6-1, 6-2. En direct de Roland-Garros, on retrouve Emma Sarango. Bonjour Emma.
Bonjour.
Alors, premier match tout à l'heure avec Caroline Garcia face à l'Ukrainienne Elina Svitolina.
Oui, la Lyonnaise 45e mondiale qui affronte donc cette Ukrainienne tête de série numéro 3 qui est devenue, vous l'avez dit, l'une des favorites après l'élimination de Simona Halep ce matin et de Garbiñe Muguruza hier. La même Svitolina que Caroline Garcia avait battue 2 fois de suite en 2017 au pic de sa carrière. Au bilan des confrontations, Garcia est donc à 3 victoires pour une défaite, ce qui peut être encourageant. Et selon la durée de ce match, Hugo Gaston fera son entrée sur le central pour la première fois de sa carrière, soit en fin d'après-midi, soit en début de soirée. Le nouveau chouchou des spectateurs qui, après avoir battu Stan Wawrinka, a fait un morceau encore plus gros. Le numéro 3 mondial, vainqueur de l'US Open, double finaliste ici à Roland-Garros, Dominic Thiem, l'Autrichien qui n'a été battu ici à Roland-Garros que 3 fois en 6 participations, 4 fois par Rafael Nadal, 1 fois par Novak Djokovic et 1 fois par Pablo Cuevas, les meilleurs joueurs du monde. Donc, mais après ces défaites matinales, on s'autorise à espérer et avant cela, alors que le toit du court central s'est ouvert il y a environ une demi-heure pour profiter d'un ciel relativement clair, on regarde Rafael Nadal qui déroule. Il mène un 7-0 face à l'Américain Sébastien Corda.
Emma Sarango, merci. Le temps pour les heures qui viennent et pour demain.
La météo avec Bureau Vallée, spécialiste depuis 30 ans en papeterie, fourniture et mobilier de bureau.
Jean-Michel Golinski.
En marge de la dépression centrée sur l'Angleterre, c'est une ambiance perturbée et venteuse qui va intéresser cet après-midi une grande partie du pays. Le vent orienté au secteur ouest va souffler en rafale de 80 km par heure près de la Manche et de l'océan. À bon 60 dans l'intérieur, sous un ciel de pluie à caractère d'averse, parfois mêlé de coups de tonnerre. Elles seront généralement espacées sur les régions de l'Est, mais beaucoup plus régulières en regardant vers l'Ouest, en s'accompagnant de précipitations marquées entre le Cotentin et la frontière belge, également sur le Limousin, et surtout sur le sud de l'Aquitaine, où les départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques sont en vigilance orange pluie-inondation. Le tout dans des températures stationnaires par rapport à hier, avec des maxima de 15 à 20 degrés de la Manche à la Méditerranée et de 23 pour la Corse, où les pluies seront plus abondantes sur la face occidentale de l'île.
Jean-Michel Golinski de Météo France.